L'épisode de Moïse au buisson ardent est une leçon de pensée, de vie, de foi, d'une profondeur jamais atteinte auparavant. Mais la deuxième partie de ce texte est vraiment dure, très très dure même, et cela forme un contraste saisissant avec la première et si célèbre partie de ce récit. Alors dans la première partie, Dieu se révèle comme un Dieu d'amour, comme étant la source de l'être, comme une fidélité qui transcende le temps et qui donne vie à notre temps. Dieu y est une impulsion décisive pour que le héros de l'histoire, Moïse, et le lecteur avec lui, soit emmené, soit porteur du salut de l'Éternel pour les autres. Alors la deuxième partie fait un choc par rapport à cette première partie, et même pour le lecteur mis en confiance par cette première partie, c'est une série de chocs assez cruels. Il paraît que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, l'empêchant de faire preuve enfin de compassion pour les gens qui l'oppriment. Et puis ensuite, Dieu punit le Pharaon de ne pas avoir changé, ce qui est quand même le comble, après l'en avoir empêché. Et puis il le punit en tuant les fils premiers-nés d'Égypte, qui n'en sont encore moins pour quelque chose que le Pharaon. Et puis enfin, quand Moïse accepte de partir en mission, comme Dieu le lui demande, à la première étape, sans sommation, le texte nous dit que Dieu chercha à tuer Moïse. Il est d'ailleurs curieux qu'apparemment Dieu décide de tuer Moïse et qu'il n'y arrive pas. Bon. Et puis c'est Tsipora, la femme de Moïse, qui va sauver la donne. Alors ce qui est un peu une provocation dans ce contexte, car elle est une femme, elle est étrangère, elle est fille d'un prêtre adorant les dieux païens. Et c'est elle qui se révèle non seulement être plus prophète que Moïse, mais en plus prêtre que Moïse et Aaron réunis. Alors que vient faire cette incroyable saga dans notre magnifique passage du buisson ardent? Alors avant d'arracher en vitesse le chapitre 4 du livre de l'Exode pour ne garder que le début du chapitre 3, peut-être est-ce que nous pourrions ce matin nous pencher dessus quelques instants. Alors c'est donc au chapitre 4 du livre de l'Exode. Dieu se révèle et puis il tente d'envoyer Moïse au boulot. Moïse répondit, « Voici, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas vraiment apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel lui dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, il le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et un peu plus loin, je passe pour que ce ne soit pas trop long. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier que c'est ainsi, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il lui dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici qui déjà vient au-devant de toi et quand il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras ?» Tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans la main ce bâton avec lequel tu feras des signes. » Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme, ses fils, les fit monter sur l'âne et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit le bâton de Dieu dans sa main. L'Éternel dit à Moïse, « En avançant dans ton retour vers l'Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras dans le Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller mon peuple. Tu diras alors au Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et puisque tu as refusé de le laisser aller, voici, moi, je tue ton fils premier-né. » Moïse étant en chemin, en un lieu où il passait la nuit, l'Éternel le rejoignit et chercha à le faire mourir. Tsipora prit alors un silex, et elle coupa le prépuce de son fils et toucha les pieds de Moïse en disant, « Tu es un époux de sang pour moi. » Alors l'Éternel le laissa quand elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Et Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui l'avait envoyé et aussi tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens et tous les enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple eut foi. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et ils se prosternèrent. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser ces textes résonner en notre cœur avant de chercher à les comprendre, les interpréter, je vous propose de chanter ensemble notre louange avec le psaume 36, dans le psautier français toujours, « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime », les trois strophes de ce psaume 36.
Thank you.
Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages que nous avons entendus, nous puissions chacun découvrir la parole, quelque chose qui vient de toi et que tu veux nous adresser personnellement. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, oui, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce temps de culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime nos cœurs, nos paroles et nos actes. À mon avis, la curieuse deuxième partie de cet immense texte est là pour nous avertir des risques possibles d'effets secondaires néfastes si l'on abuse de la magnifique première partie. Au buisson ardent, Dieu se révèle comme ayant résolu de sauver les Hébreux alors qu'ils s'étaient mis eux-mêmes dans le pétrin. En effet, il est considéré comme normal dans la Bible d'aller en Égypte quand il y a une menace de famine, par exemple. Car l'Égypte évoque l'industrie humaine et sa richesse, qui sont bien sûr utiles pour vivre en ce monde et pour agir, mais il est mauvais d'y investir son cœur et de camper là. C'est ce que rappelle Jésus avec force quand il nous dit qu'il n'est pas possible d'adorer à la fois Dieu et Mammon. Il faut choisir. C'est pas possible en même temps. Et donc les Hébreux sont descendus avec Jacob en Égypte. Très bien, il y avait une famine. Ils y ont fait fortune avec Joseph, c'est parfait, mais il fallait alors remonter dans le lieu de la promesse et y demeurer. C'est ce que fait Abraham, c'est ce que font Marie et Joseph qui fuient en Égypte avec Jésus et ils rentrent dès que Hérode est mort. Ces récits sont une invitation à gérer les affaires de ce monde, bien sûr, dans un sens utilitaire, mais à ne pas y investir notre cœur, notre espérance, notre foi. Au contraire, dans un mouvement inverse, à replacer notre cœur, notre être, notre espérance et nos moyens matériels sous l'inspiration de Dieu. Être riche matériellement, tant mieux, mais vivant spirituellement. Les Hébreux sont donc en Égypte depuis plusieurs centaines d'années et ils sont maintenant esclaves de ce système, esclaves du Pharaon. Cet esclavage est lu depuis des siècles comme une figure de l'esclavage de l'homme dans son propre péché. Un esclavage dont il est d'autant plus difficile de sortir que c'est finalement de nous-mêmes dont nous sommes esclaves. Et dans cette histoire, nous sommes donc à la fois les Hébreux et le Pharaon. Mais, nous dit l'Exode, Dieu a entendu leur gémissement, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il comprit. Le salut qui s'annonce est donc un salut par pure grâce, sans repentance de la part des pécheurs, sans sang versé pour acheter le pardon, sans même une prière d'appel à l'aide. Dieu est comme ça, nous dit le texte, c'est le Dieu de la grâce. Et Jésus-Christ le montre. Le Pharaon est ainsi une figure de notre péché. Et les Hébreux sont une figure du meilleur nous-mêmes, finalement, de notre part de bonne créativité, de notre personnalité profonde. C'est l'enfant que Dieu aime, qui espère, l'enfant qui espère, l'enfant qui avance et qui fait avancer. Alors l'avantage de cette théologie mise en histoire, c'est que cela nous laisse toute latitude pour nous l'approprier en fonction de nos propres difficultés et en fonction de nos propres talents. Le Pharaon, le peuple hébreu, Moïse, Aaron sont ici des dimensions qui sont en chacun de nous. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait eu un fond historique derrière, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a une mise en récit qui est comme une prédication pour nous. C'est ce que dit la relecture chrétienne de cette histoire, dans la ligne d'une lecture très classique par tous les rabbins depuis que l'on enseigne cette histoire de Moïse et de sortie d'Égypte, et que l'on célèbre la Pâque pour que chacun puisse l'intérioriser, se l'approprier. Et cette lecture, c'est ce que fait par exemple Paul quand il nous dit que la mer Rouge qui laisse passer les Hébreux et qui noie les chevaliers du Pharaon, ce passage est une figure de notre baptême, et donc signe du salut en Jésus-Christ, signe que la mort est venue frapper notre péché en nous, que le péché est mort en nous, que la mort a disparu, libérant ce qui est Christ en nous, finalement, pour avancer. Mais alors, bien sûr, cela ne se fait pas en un clin d'œil dans notre existence. Le salut de Dieu est comme une pédagogie pour nous, une psychanalyse, une guérison. Notre pharaon intérieur est habile. Il est prêt à négocier, à se faufiler, à se faire passer comme pouvant progresser, comme pouvant négocier finalement. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Il y a des choses en nous et dans l'humanité qu'il faut convertir, faire progresser, faire grandir. Mais il y a des travers qu'il faut purement et simplement éliminer. Pas de quartier. Dieu durcit nos travers pharaoniques afin qu'ils montrent enfin leur vrai visage à nos yeux, afin que nous démasquions comme tyranniques finalement cette fausse espérance, ces fausses adorations, et que Dieu puisse alors nous en sauver. Et les enfants de ce qui est Pharaon sont les conséquences de nos préoccupations inutiles et néfastes, de ces mauvaises adorations qui empoisonnent notre existence. Aucun remords de les supprimer purement et simplement, car ce sont finalement des sortes d'ulcères existentiels, spirituels et moraux pour nous. Alors il est impossible de lire ce récit de l'Exode au sens littéral, comme si Dieu pouvait endurcir le cœur de telle personne et pouvait l'empêcher d'avoir compassion, jamais de la vie. Et Dieu ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas avoir pu changer, d'avoir du mal à changer, évidemment. Et Dieu ne tue pas les enfants, pas même un seul. Lire ce texte à la lettre, c'est de la mauvaise théologie, et une mauvaise théologie engendre une mauvaise idée de ce qui est juste, et donc une mauvaise éthique. Et cela engendre même une mauvaise prière, encore troublée par une certaine crainte d'un Dieu qui potentiellement pourrait devenir arbitraire, cruel, alors que, nous dit ce texte, et montre Jésus-Christ, tout nous a déjà été donné par grâce. Il n'y a qu'à aller chercher le Moïse, réveiller le Moïse, ressusciter le Moïse qui sommeille en chacun de nous et qu'il mette en œuvre le salut de l'Éternel, le salut que Dieu a déjà donné et que ce salut puisse être mis en œuvre très concrètement dans notre existence. Justement, Dieu appelle Moïse. Moïse représente notre foi, notre force, notre dynamisme, notre désir de nous engager pour plus de justice en ce monde. Au début, en Moïse, comme en nous, ce bon fond est un peu comme un cheval sauvage et Moïse fait pas mal de dégâts. Dieu va tout faire pour l'élever au meilleur de sa forme. Dieu se révèle comme étant celui qui s'appelle « Je suis et je serai ». C'est en un seul mot, « Heoye » en hébreu, c'est en un seul mot une théologie de la grâce et de la fidélité. Dieu est et restera en toutes circonstances la source ultime de l'être. C'est sa nature, il est comme ça. C'est une garantie qu'il ne nous tuera pas, ni nous, ni personne. Qu'il luttera sans cesse contre le mal, mais par le bien. Contre la souffrance et la mort, mais par un supplément d'être. Dieu se révèle même comme celui qui dit « Je suis, je serai avec toi ». Reprenant la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, et à nous aujourd'hui. Moïse hésite. Quand il dit que les Hébreux ne le croiront pas, c'est Moïse qui doute. Et nous aussi, bien sûr, c'est normal. Même le plus grand des croyants peine à se figurer l'infini de cette source de vie qui parle au plus profond de nous-mêmes comme au creux d'un simple buisson. Dieu donne alors à Moïse le signe d'un bâton qui devient un serpent, qui devient un bâton. Ce bâton va avoir un rôle tout au long de cette histoire. Dieu lui dit de bien le garder en main durant son voyage. Il le dit à deux reprises. De méditer sur le signe qu'est ce bâton tout au long de son itinéraire. De l'utiliser face au Pharaon et de l'utiliser aussi aux Hébreux pour les mobiliser. Ce bâton, nous dit le texte, c'est le bâton de Dieu. Il est une figure de Dieu dans la main de Moïse. Il est le bâton qui aide à cheminer et qui nous accompagne, comme Dieu le fait en fait, avec une incroyable humilité dans le service de ses enfants. Dieu se fait notre bâton de marche. Ce bâton, c'est l'Éternel avec nous. Comme dans cette histoire, pour rassembler ce qui est enfant de Dieu en nous tous, pour durcir et éliminer nos pharaons intérieurs, pour aider notre Moïse à ouvrir la mer Rouge. Et que nous puissions la traverser, que nous puissions, avec une grande chasse d'eau, éliminer, balayer les choses anciennes qui nous retenaient prisonnières et qui nous opprinent, qui nous tiennent dans le péché et dans la mort. Ce bâton, c'est ce Dieu qui nous aide à avancer dans nos déserts et qui y ouvre des sources inconnues. C'est ce que montrera la suite de l'histoire dans le livre des Nombres. Voici donc Moïse qui s'est mis en marche. Enfin enseigné de la meilleure de la théologie de la grâce, fort de son expérience de Dieu par la mystique, équipé de son bâton serpent, accompagné de sa femme Tsippora, de leurs deux fils, de Loran, et puis ravi de faire bientôt équipe avec son frère Aaron, celui qui a la langue bien pendue. À la première étape, nous dit le texte, Dieu rejoignit Moïse et chercha à le faire mourir. Comme le curieux bâton serpent en est le signe, le Dieu qui soutient devient tout d'un coup le Dieu qui menace de nous tuer, puis redevient ensuite le Dieu qui nous sauve et qui nous rassemble avec nos frères. Le signe du bâton qui devient serpent, puis qui redevient un bâton, c'est donc pas simplement un tour de passe-passe pour épater la galerie, mais c'est une leçon de théologie en fait, une leçon de théologie qui nous sert de viatique pour cheminer, ou plutôt, c'est le mode d'emploi du Dieu qui s'appelle « Je suis et je serai ». Je suis avec toi. C'est pourquoi Dieu a bien conseillé à Moïse de garder en tête, de garder en main, de méditer sur ce signe tout au long de son itinéraire, soit pour éviter la chute, soit pour comprendre ce qui nous arrive quand vient la chute. Alors le bâton, c'est bien connu, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un signe du secours de Dieu, comme dans le psaume 23 que nous connaissons tous par cœur, par exemple. Le serpent est encore plus connu, bien sûr, grâce au récit de la Genèse. C'est une image de la tentation que nous avons tous, plus ou moins inconsciemment, de nous prendre nous-mêmes pour Dieu. Alors peut-être pas dans une supposée toute-puissance, mais en tout cas en voyant l'univers comme s'il tournait ou devait tourner autour de notre petit nombril. La Genèse nous dit qu'au milieu du jardin d'Éden, il y a un arbre qui est à la fois l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de mon désir de l'instant devrait bien décider ce qui est le bien et le mal pour moi et pour tous. Il y a un seul arbre au centre du jardin, soit de vie, soit de mort pour nous. Il y a un seul Dieu, soit c'est Dieu qui est Dieu pour moi et c'est le Dieu de la vie, soit c'est moi qui me prends pour Dieu et c'est le Dieu de la mort. Il y a un seul bâton de Dieu, soit bâton de salut, soit serpent qui nous menace. Il y a une seule adoration, en fait, soit de Dieu, soit de Mammon. Alors c'est un peu schématique, mais pas tant que ça finalement, car le système de notre élan personnel de vie a tendance à basculer soit d'un côté, soit de l'autre. C'est ce que nous dit Jésus finalement, et l'entre-deux est difficilement tenable. Cette histoire nous dit qu'il y a un risque à trop totalement intégrer cette découverte du Dieu qui n'est que source de vie éternelle pour nous. Moïse a tout reçu de Dieu. Moïse a reçu de Dieu le pouvoir de faire des prodiges et nous pouvons en faire aussi des miracles et des prodiges. Dieu lui permet de parler en son nom comme nous en annonçant l'évangile du Christ. Dieu le charge de sauver son peuple en son nom comme nous sommes appelés à aider comme nous le pouvons notre prochain au nom du Christ. Dieu dit même à Moïse qu'il sera comme Dieu pour Aaron et pour les autres. Moïse et son peuple sont appelés fils premier-né, fils chéri, héritier de Dieu, et nous le sommes en Christ. Dieu a senti toute la grâce et le pardon de Dieu, pardon sans condition, sans punition, sans peine, un pardon sans même un mot de reproche. Il a senti son incroyable dignité aux yeux de Dieu. Tout est donné, tout est déjà donné par la simple passion de Dieu pour nous, passion dans les deux sens du terme. Alors pourquoi s'en faire ? Moïse se dit alors, tiens, et si on commençait par faire une petite étape dans cette auberge bien sympathique ? À peine parti, déjà la pause, comme les enfants en montagne. C'est comme je veux, je suis libre, alors autant en profiter, faire comme bon me semble. Moïse pense que tout va bien, mais en fait on régresse dès que l'on cesse d'avancer. En tout cas, dans le domaine de la réflexion et de la foi, comme d'ailleurs dans le domaine de l'espérance et de l'amour, comme d'ailleurs dans le domaine de la forme physique aussi. Pendant ce temps-là, le peuple souffre et le pharaon rigole. Et le bâton devient serpent. Moïse ne voit même pas le problème. Il est comme Dieu. C'est Tsipora qui voit et qui réagit. À chaque page de ce début du livre de l'Exode, il y a une femme géniale qui apporte une impulsion décisive pour sauver tout le monde. Ces femmes, elles évoquent notre dimension sensible qui aime, qui pardonne et qui réconcilie. Alors que Moïse, ça évoque notre force physique, notre désir de faire justice, un peu le Rambo de l'affaire. Dieu a également ici ses deux côtés. Quand il s'appelle Dieu Elohim, c'est le Dieu fort. Quand il s'appelle l'Éternel, je suis, je serai, il est le Dieu qui pardonne et qui sauve comme une maman. Et c'est un seul et même Dieu. Tsipora va donc circoncire son fils en général en fait. Et il touche, et elle touche, avec le prépuce encore ensanglanté, oui l'histoire est un peu sanguinolente, le sexe de Moïse, enfin on dit les pieds mais ça, en fait ça veut dire le sexe. Comme toujours dans cette histoire, on est un peu, bon, c'est un peu un euphémisme. Et donc, c'est comme une deuxième circoncision pour Moïse, si vous voulez, une vraie circoncision, celle du cœur et de la foi, celle de notre foi et de nos actes, celle de notre espérance, celle de notre relation à Dieu. Il est impossible, bien sûr, que Dieu ait voulu tuer Moïse parce qu'il aurait oublié de circoncire un de ses deux fils. Dieu le lui aurait dit quand même. Et puis la question n'est pas là, ce texte est d'une toute autre logique, d'une toute autre profondeur que simplement une question de rite à bien faire comme il faut, bien sûr. C'est une question de foi. La circoncision est le symbole d'une attitude juste avec Dieu, dans notre alliance avec Dieu. Renoncer à un petit bout de sa puissance personnelle, de plaisir et de fécondation finalement, pour faire place à une collaboration avec Dieu, une juste place pour nous et pour Dieu dans une alliance pour être heureux et pour être source de vie dans notre existence. Et alors, le serpent redevient bâton, redevient le vrai Dieu. Cela, oui, nous fait saigner un petit peu de renoncer à être à soi tout seul, la source de tout et le centre de l'existence. Mais c'est ainsi que nous pouvons épouser Dieu, que nous entrons dans cette alliance vraiment féconde avec lui, oui, par cette circoncision du cœur. Nous sommes alors l'époux de sang de l'Éternel et nous sommes l'épouse du grand Dieu. Amen.